Radio Capi, grand témoin.
Bonjour, je suis Alain Irung Mouchinge. Dans Grand Témoin aujourd'hui, je reçois le professeur Bosco Bachangwa Mposi, bio-ingénieur en production végétale intégrée, horticulture, système agraire, agroforesterie, spécialiste en agro-socio-économie, développement durable, sécurité alimentaire et moyens d'existence, directeur de la recherche et des programmes de développement à l'Université Espoir d'Afrique au Burundi. Professeur Bosco Bachangwa, bonjour.
Bonjour.
Soyez le bienvenu.
Merci.
Comment allez-vous?
Je vais bien.
Comme je l'ai dit, vous êtes bio-ingénieur en production végétale intégrée, horticulture, système agraire, agroforesterie. Pour commencer par là, qu'est-ce que ça veut dire en français facile?
Bon, en français facile, je vais dire que je suis ingénieur agronome, phytotechnicien à la base, où j'ai fait ma formation à l'Université catholique de Bukavu. Dans le jargon européen, on ne parle plus souvent d'ingénieur agronome, on parle de bio-ingénieur. Si je parle de systèmes intégrés, je suis toujours intéressé par l'approche intégrée, c'est-à-dire comment mélanger la production animale et la production végétale, combiné aussi par la pisciculture. C'est de ça qu'on parle un peu d'un système intégré. Durant ma thèse, je me suis beaucoup plus intéressé à l'horticulture. L'horticulture concerne tout ce qui est production de fruits, légumes, culture ornementale. Mais j'avais mis l'accent sur le fruit, principalement le fruit de la passion. Quand on parle de l'agroforesterie, c'est des personnes qui sont intéressées par l'intégration d'arbres dans la production. Donc, comment on peut combiner les arbres avec les cultures vivrières, avec les cultures industrielles, avec ce que nous connaissons comme problème des changements climatiques. Ça nous amène, pour atténuer les effets des changements climatiques, d'avoir l'approche de l'agroforesterie. En fait, les différents aspects, c'est pourquoi on résume après pour parler de développement durable, parce que en cultivant, on retire des choses dans le sol, on s'occupe du présent, mais on s'occupe aussi du futur. C'est là où on parle de développement durable. Et donc, c'est-à-dire, si j'intègre, par exemple, l'agroforesterie, les arbres ont plusieurs fonctions dans la production végétale. Ça peut permettre à conserver le sol, ça peut permettre à améliorer le sol, ça peut permettre de lutter contre la désertification. En ayant cette approche-là des systèmes intégrés, on pense directement au développement durable.
Revenons sur votre thèse. Vous disiez tout à l'heure que vous l'avez centrée sur le fruit de la passion qu'on connaît généralement sous le nom de maracuja.
Ouais.
C'était quoi votre thèse?
En fait, ma thèse est partie d'une observation. En grandissant chez moi dans le sud Kivu, quand on était petit, le maracuja, comme on l'appelle le plus couramment, n'était pas cultivé. Ça poussait de manière spontanée où on le trouvait autour de l'enclos. Ou bien ça pousse sur les arbres dans la forêt en étant petit. On allait cueillir le maracuja parce que c'était trop bon, c'était trop succulent. Et c'est parti d'une expertise que j'avais eue au Burundi en 2009. J'étais expert dans un programme MIDA. Et là, je vais à l'intérieur du pays. Je trouve que les gens cultivent le maracuja. Ils ont des parcelles de maracuja. Et là, j'étais curieux, en dialoguant avec eux, pour leur poser la question, qu'est-ce qui vous a poussé à cultiver le maracuja? Et ils m'ont raconté leur histoire, en fait, qu'ils allaient dans la forêt, qu'on appelle le Kibira. Et là, ils cueillaient le maracuja. Il y avait un prêtre blanc qui aimait beaucoup le maracuja. Et il lui amenait le maracuja. Et petit à petit, ils commençaient à le commercialiser le long de la route. Et après, ils ont vu que la demande était très élevée. Ils ont dit que la cueillette ne suffit plus à répondre aux besoins de la demande, donc aux besoins du marché. Et là, ils ont décidé carrément de cultiver le maracuja, c'est-à-dire avoir des parcelles de maracuja.
À grande échelle.
À grande échelle. Mais comme c'était dans une zone où il y a une forte densité de la population, plus de 450 habitants par kilomètre carré. Donc c'est une zone aussi où il y a une forte pression foncière. Il n'y avait pas assez de champs. En passant, je peux vous dire qu'au Burundi, par ménage de 6 personnes, ils cultivent une superficie de 0,5 hectares. Alors moi, je me suis posé la question, où est-ce que vous avez trouvé des parcelles de champs? En agronomie, on parle des parcelles pour cultiver le maracuja. Et là, c'est à partir de cette question que l'idée de la thèse sur le maracuja m'est venue. Et puis, je leur posais la question, est-ce que vous êtes accompagné par l'État? La réponse était non. Est-ce que vous êtes accompagné par les chercheurs? La réponse était non. Alors, comment vous cultivez le maracuja? Ils m'ont donné autant d'informations que j'étais émerveillé. C'est là que j'ai parlé de l'innovation endogène. Parce que je me suis rendu compte que ces paysans, ils ont créé un nouveau système de culture qui n'est pas renseigné par les scientifiques et qui n'est pas pris en compte par les autorités, donc le ministère de l'Agriculture. Et c'est là où est partie l'idée d'une thèse sur le fruit de maracuja et l'idée que les paysans sont des innovateurs, sont des chercheurs comme nous. Et moi, je suis parti avec la théorie de comment mettre en lumière les connaissances paysannes. Donc, ma thèse tourne autour de ça.
Professeur, vous avez 17 ans d'expérience dans l'enseignement supérieur et universitaire, ainsi que dans le renforcement des capacités des associations, 15 ans d'expérience dans la gestion des projets multisectoriels de développement rural, dans la recherche, la consultance, la gestion des programmes de sécurité alimentaire et moyens d'existence, promotion de l'agroécologie, du développement durable. La RDC, comme on le dit toujours, scandale géologique, scandale agronomique, scandale culturel, scandale pratiquement dans tous les secteurs. 80 millions d'hectares de terres arables, mais on souffre de malnutrition en RDC. Comment vous l'expliquez?
C'est difficile à expliquer, mais aussi ça peut être facile à expliquer parce que il y a plusieurs facteurs, en fait, qui amènent à parler de la malnutrition. Si on voit la situation de la RDC actuellement, on peut mettre en avant beaucoup plus les conflits humanitaires que nous connaissons durant les 20 dernières années. Bon, pour certaines régions qui sont dans cette situation, on peut trouver que c'est valable. Mais pour d'autres régions qui n'ont pas connu la guerre, je crois qu'on peut évoquer le problème culturel parce que dans certaines régions, on a mis beaucoup plus d'accent sur les ressources minières et l'État congolais aussi a mis en avant beaucoup les ressources minières, même si actuellement on nous parle qu'on va développer l'agriculture.
La revanche du sol sur le sous-sol.
Sur le sous-sol, je crois que ça reste un peu un slogan parce que le financement ne suit pas. Si on regarde l'INERA, l'Institut National d'Études et de Recherches Agronomiques, on voit que le secteur est sous-financé, même si, de part et d'autre, on voit qu'il y a des dynamiques qui se mettent en place. En fait, le problème le plus important au Congo, où nous nous retrouvons dans cette situation de malnutrition, on est resté dans l'agriculture de subsistance. C'est-à-dire l'agriculture de subsistance, je produis pour moi et ma petite famille et le surplus, je l'amène au niveau du marché.
La petite agriculture.
Oui, la petite agriculture. Si j'amène le surplus au niveau du marché, le système de conservation des produits agricoles est presque inexistant. La transformation des produits agricoles n'est pas développée. Et l'élevage n'est pas très développé dans notre pays. Tous ces éléments font que l'accès à l'alimentation devient un problème, mais beaucoup plus aussi par le problème des dessertes agricoles. On va vous dire qu'à Kindu, le riz pourrit, à tel endroit, les fruits pourrissent, tout simplement parce que il n'y a pas de route. Donc, je vais produire des tonnes. Je les achemine comment?
À quel moment, professeur, parle-t-on d'insécurité alimentaire? Quand est-ce qu'on peut considérer qu'une personne ou une population est en insécurité alimentaire?
En fait, avant de parler de l'insécurité alimentaire, nous pouvons aussi nous interroger c'est quoi la sécurité alimentaire? Parce que quand on parle de la sécurité alimentaire, on voit la disponibilité d'aliments, on voit aussi l'accès. Je veux prendre vraiment surtout les deux points. On voit aussi l'accès d'aliments, mais aussi il faut voir la qualité. Parce que la qualité de l'aliment que nous mangeons dépend aussi des aspects culturels. Qu'est-ce qu'on aime manger? Par exemple, moi, en grandissant, quand j'étais petit, je mangeais pas le pondou, c'est-à-dire les feuilles de manioc. Parce que dans ma tête, je me disais, oh, c'est pour les chèvres. Ça fait que vous allez voir que beaucoup de gens ne mettent pas l'accent sur les fruits et légumes. Pourtant, très important sur le plan nutritionnel. Donc, on pense que on est en sécurité alimentaire parce qu'on mange la viande, parce qu'on mange ceci, mais on peut manger la viande, on peut avoir une bonne mine, alors qu'on a des carences, parce que la personne même qui est obèse, il n'est pas aussi en sécurité alimentaire. Donc, il faut voir la qualité des aliments que nous mangeons et la quantité des aliments que nous mangeons. Donc, il faut combiner, par exemple, les protéines animales, mais aussi d'autres vitamines qu'on retrouve facilement dans les fruits et légumes et d'autres végétaux. Donc, on se retrouve en insécurité, surtout au Congo. L'insécurité alimentaire, c'est beaucoup plus sur l'accès et la disponibilité qui fait que les gens se retrouvent dans l'insécurité alimentaire, mais aussi la pauvreté qui fait que nous n'avons pas accès à ce que nous voulons. Nous nous contentons maintenant à ce qui est disponible. On se préoccupe à avoir un ventre ballonné. Alors, on s'est dit que j'ai mangé.
Alors, on préfère avoir un ventre plein plutôt qu'un ventre plein de bonnes choses, de qualité.
De qualité dedans.
Quand vous regardez la RDC, sur 10 Congolais, on peut considérer que combien sont en insécurité alimentaire?
Si on regarde les statistiques sur 10 Congolais, peut-être 5 sont en insécurité alimentaire. Moi, je regardais, par exemple, à Kinshasa, quand je me promène, je vois que tout est importé. Donc, tout est importé, mais si le salaire ne suit pas, et comment les gens vont avoir accès à cette alimentation qui sont saines? Donc, on peut se dire qu'à Kinshasa, ceux qui mangent mieux, ceux qui ont accès à ces grands supermarchés, bon, je n'ai pas eu l'occasion d'aller dans ce qu'on parle des Malewa, vous allez trouver que l'alimentation est différente. Et puis, on va rester dans ce qu'on aime manger de manière coutumière, les kwanga, le ceci, et ce qui est pauvre aussi en termes d'éléments nutritifs.
Vous avez aussi, professeur, une expertise dans la facilitation de redéploiement des services étatiques dans les zones en conflit et promotion de l'autodéveloppement en encourageant la participation active des populations dans la mise en place des projets. On a une bonne partie de la RDC, notamment la partie Est, qui est en proie à des conflits armés, groupes armés, étrangers, locaux, une partie insécurisée. On a des millions de déplacés dans une zone comme celle-ci où les populations ne savent plus faire l'agriculture, ne savent plus récolter, deviennent des déplacés dans leur propre pays. C'est très compliqué.
Oui, c'est très compliqué, mais si je prends l'exemple de la Bible, il y a le prophète Néhémie qui avait envie de reconstruire Jérusalem. Dans la sensibilisation, il disait, bon, il y a une arme à côté, mais dans l'entretemps, nous reconstruisons le pays. C'est-à-dire, quand il y a la paix, quand il y a la calmie, on construit. Quand l'ennemi vient, on se bat avec l'ennemi. Et puis, ma propre expérience, moi j'ai fait mes études à Bukavu durant la guerre. C'est-à-dire, j'ai commencé ma première année d'université durant la guerre et j'ai eu mon diplôme d'ingénieur agronome. C'était durant la période de la guerre. C'est-à-dire que la guerre ne peut pas nous empêcher de vivre et d'avoir nos ambitions. Et cette expertise de redéploiement des services étatiques dans les zones en conflit, je travaillais comme chef de programme en Centrafrique. C'était un délai, une zone en plein conflit. Avant, j'étais à Cabo aussi. C'était des zones en plein conflit où, en tant qu'expert humanitaire, on est obligé d'y aller parce qu'on veut aider les gens. Et là, vous êtes obligé de parler avec les rebelles. Parce que moi, j'ai travaillé dans des zones occupées par des rebelles. Alors, vous les sensibilisez aussi. Parce qu'il est rebelle, mais il reste humain.
il a faim, il doit manger. Oui,
il doit manger, mais aussi il reste humain parce que un rebelle dans une zone déserte où il y a personne, lui aussi va fuir. Donc on doit sensibiliser la population à pouvoir s'adapter et choisir quel type d'agriculture qu'on va mettre en place. Dans une zone de conflit, on va pas demander aux gens de planter le caféier, le palmier. On est dans la culture vivrière, on est dans la culture maraîchage, on est dans la pisciculture, des choses où vous plantez les amarantes et après un mois, vous récoltez parce que les gens doivent manger. Mais aussi, vous les sensibilisez à la cohésion sociale. C'est-à-dire qu'il faut transcender les conflits entre communautés parce que les gens doivent vivre. Donc le redéploiement des services étatiques et comment on le faisait en RCA, nous on avait une partie de financement, mais comme l'État ne pouvait pas être dans la zone où j'étais en délai, on sensibilisait les gens pour dire, voilà, nous allons vous former pour être des moniteurs agricoles, des techniciens dans les domaines d'élevage. Et là, on les sensibilisait aussi d'amener un apport, c'est-à-dire que l'ONG finance la main-d'œuvre, ce qu'on appelle le cash for work. Et on demande les gens, au lieu de rester là-bas sans rien faire, vous pouvez fabriquer les briques, vous pouvez aller chercher les moellons, vous pouvez aller faire ceci. Donc, en travaillant, on leur fait sortir de l'oisiveté, on leur paye ce qu'on fait le cash for work, et puis on engage la main d'œuvre locale avec nos experts dans le domaine des génie civil. Il y a un plan où on construit un bâtiment qui est multifonctionnel. C'est-à-dire que les techniciens que nous avons formés, et là on demande aussi aux rebelles de permettre que nous puissions collaborer avec l'État, parce que nous devons suivre les normes de l'État, et là on négocie pour qu'un technicien de l'État qui vient de la capitale puisse venir dans la région et puisse coordonner les activités pour que nous soyons dans la même vision que le gouvernement central.
Est-ce que pareille expérience, professeur, peut être appliquée ici en RDC?
Oui, je crois que c'est possible que pareille expérience soit appliquée en RDC parce que nous avons d'ONG qui travaillent dans des zones de conflit, que ce soit en Ituri, que ce soit vers Bounagana. Je peux vous donner un exemple. Il y a aussi des humanitaires, des civils qui se déploient. Moi, j'ai vu quelqu'un à Goma chez les déplacés. Il est en train de former les gens dans la production de petits poussins. Il les forme localement. C'est-à-dire qu'il y a les conflits, mais les gens doivent vivre. Et il faut donner l'espoir aux gens. Et je crois que si les gens tiennent encore dans les zones à conflit en RDC, c'est suite à la présence d'agents humanitaires et des Congolais de cœur qui acceptent aller travailler dans ces zones. Maintenant, je n'ai pas beaucoup d'expérience dans ces zones en conflit en RDC. Il faut aussi voir comment ils collaborent avec les services étatiques dans ces zones.
Mama, 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 mama
Le grand témoin.
Grand témoin reçoit pour vous aujourd'hui le professeur Bosco Bachangwa Mposi. Il est bio-ingénieur en production végétale intégrée, horticulture, système agraire, agroforesterie, spécialiste en agro-socio-économie, développement durable, sécurité alimentaire et moyens d'existence. Directeur de la recherche et des programmes de développement à l'université Espoir d'Afrique au Burundi. Professeur Bosco Bachangwa, vous êtes à Kinshasa puisque vous revenez de la semaine de la science qui s'est tenue pour une partie à Mbanzangungu au Congo central. Parlez-nous de cette expérience.
La semaine de la science et technologie, c'est vraiment un événement très très important pour la RDC qui est en train d'être un événement international parce que j'ai rencontré les gens qui gênent un peu de partout, des États-Unis, de l'Afrique du Sud, du Sénégal, des représentants de l'Union africaine. En fait, la semaine des sciences et technologies avait été initiée par la professeure Raissa Malou et son équipe pour démystifier les mathématiques et physique et pour aider les enfants à aimer la science, en fait. Et nous, quand on était petits, la mathématique et la physique, c'était comme de la science-fiction. Mais vraiment, l'approche du professeur Raissa Malou est une approche très, très intéressante parce que on amène les enfants à palper, à voir les applications de la mathématique et de physique. Et ça s'est vraiment élargi à d'autres sciences comme l'astrophysique, la physique des particules, l'agriculture. C'est dans ce cadre-là que je suis venu à Kinshasa et j'ai vécu vraiment une expérience formidable. Moi, j'ai vu les enfants de l'école secondaire parler des satellites, parler des télescopes, parler de l'application des mathématiques dans la vie courante. La chimie, par exemple, à Mbanzangungu, j'ai pu goûter une dentifrice fabriquée par les élèves de l'école secondaire à partir de l'eucalyptus, de l'argile et de certaines choses. C'était passionnant de voir que la RDC a une jeunesse qui a de l'avenir, des étudiants qui valorisent les déchets, par exemple les plastiques. Les étudiants de Mbanzangungu de l'Université du Congo, ils ont créé un biocarburant à partir de ça. Donc vous voyez que la RDC a une jeunesse qui a tout son avenir devant elle. Et je crois que cette activité semaine de la science et de la technologie mérite d'avoir une attention particulière du gouvernement congolais.
Professeur, vous avez aussi une grande expérience en ce qui concerne les coopératives agricoles. En RDC, il y a des paysans qui, à leur manière, essaient de se débrouiller tant bien que mal. Quels sont les avantages de se retrouver dans une coopérative?
En fait, le développement des coopératives en RDC, je crois que c'est l'un des piliers qui va nous aider à développer notre agriculture. Parce que quand on travaille seul, on est un individu, on fait face à ses propres difficultés et on a du mal à se faire connaître au Congo. Mais quand on travaille en coopérative, vous êtes un groupement de plusieurs agriculteurs. C'est facile de vendre vos produits en tant que coopérateur. C'est-à-dire, si tu vends ton produit au marché, tu es seul, tu n'es pas compétitif. Mais aussi, tu vas créer trop de compétitions. Si vous venez, vous êtes 1000 agriculteurs, vous vendez tous le maïs. C'est-à-dire que l'acheteur va vous imposer le prix. Mais si au lieu d'être 1000 agriculteurs vendeurs sur le marché, vous n'êtes qu'une seule personne, c'est-à-dire une coopérative qui vend le maïs, vous êtes en position de force dans les négociations des prix. Mais aussi, ça peut permettre l'État à d'autres organisations à renforcer les capacités des agriculteurs groupés dans une coopérative que des agriculteurs éparpillés, mais aussi pour avoir l'accès au marché, mais aussi l'accès au financement ou au crédit. Parce que actuellement, il y a des microcrédits qui se développent. On a plus conscience à donner un crédit à une société coopérative qu'à un individu. Je crois que cette approche de coopérative, on est en train de discuter avec le docteur Serge Mbaye de Bilanga Yabeto, comment on peut mettre l'accent dans les coopératives pour pouvoir développer l'agriculture congolaise. Ça va nous permettre de sortir de la petite agriculture pour aller maintenant vers l'agriculture de marché. Avoir aussi nos grands supermarchés détenus par les Congolais, les fils du pays.
Où on peut manger réellement bio.
Où on peut manger réellement bio et sain. Où on peut voir aussi les Congolais décideurs, les Congolais managers, directeurs d'un centre commercial.
Professeur, nous allons maintenant parler de vous. Vous voyez le jour, le 17 mars 76. Comment vous vous retrouvez au Burundi, enseignant dans une université burundaise?
En fait, si je parle de moi, je suis né au Congo, à Katana. C'est dans le sud Kivu, à l'hôpital Fomilac. Deux mois après, je suis parti au Burundi. En fait, mon père travaillait déjà au Burundi, mais il m'a jamais expliqué. Ma sœur est née au Burundi, mais il a voulu que moi je naisse au Congo. Je ne sais pas pourquoi. Ça s'est passé comme ça. Et pour moi, ça m'a aidé aussi à être attaché à mon pays, le fait de naître au Congo. Quoique j'ai vécu une grande partie de ma vie au Burundi, c'est là où j'ai fait mes études primaires et secondaires. Et puis après, je suis revenu au Congo pour faire les études universitaires. Comment je me retrouve dans une université burundaise? En fait, je suis enseignant au Burundi, mais aussi au Congo. Parce que je suis professeur de l'ISTD Calais, qui est l'Institut supérieur technique de développement de Calais. C'est dans le site Kivu, c'est là où j'enseigne. Mais au Burundi, je suis directeur de recherche dans cette université. En fait, j'ai fait ma thèse portée sur le Burundi, le Kenya et le Rwanda. Je n'ai pas intégré la RDC parce que le fruit de la passion, je n'avais pas pu trouver vraiment des parcelles de fruit de la passion. Et cette expérience-là, j'ai oublié de vous dire que ça fait 16 ans. Et j'ai habité la Belgique, là où j'ai fait ma thèse. Alors, l'envie de rentrer au Congo est venue à moi. Le système aussi congolais est complexe. Je suis professeur au Congo, mais je ne suis pas mécanisé. C'est-à-dire, si je ne suis pas mécanisé, j'enseigne gratuitement parce que j'ai pas de salaire, mais je dois vivre. J'ai une famille, j'ai des enfants. Donc, je me dis, il faut être juste à côté. Comme il y avait une opportunité au Burundi où je peux avoir un salaire, et ce salaire que je gagne au Burundi me permet de répondre aux besoins de ma famille, mais me permet aussi de venir au Congo pour aider mon pays, en attendant que le processus de mécanisation suit son cours.
Voilà, je vais donner quelques détails sur votre parcours scolaire. 82-88, c'est l'école primaire de quartier 4 Ngangara de Bujumbura. Vous obtenez votre certificat d'études primaires. 88-95, institut du centre scolaire Zaïrois de Bujumbura. Vous obtenez votre diplôme d'études secondaires. 99-2004, Université catholique de Bukavu, c'est en RDC, ingénieur agronome en sciences agronomiques et grade d'ingénieur agronome. 2006-2007, Université catholique de Louvain-la-Neuve en Belgique, vous avez votre master complémentaire en protection des cultures tropicales et subtropicales. 2009-2019, doctorat en sciences agronomiques et ingénieur biologique, socio-économie et développement rural, formation doctorale à l'université de Liège en Belgique et vous obtiendrez votre doctorat. Quel type d'enfant était le professeur Bosco Bachangwa?
Ah, j'étais un enfant timide, mais qui aimait beaucoup la lecture. Et ça me différenciait beaucoup des autres enfants quand j'étais tout petit. D'abord, quand je faisais mon école primaire, je connaissais pas la langue burundaise. Donc le Kirundi, je pouvais pas parler parce que mon père parlait notre langue, le machi, le kiavu à la maison avec maman, et le français. Donc on ne connaissait pas la langue locale alors qu'on devrait étudier dans cette langue locale. Du coup, j'avais la curiosité, j'allais chez une maman voisine pour qu'il m'apprenne cette langue. Parce que tout, première année, jusqu'en quatrième année, tout était dans la langue locale et moi je parlais pas. C'est-à-dire, cette maman a été une seconde maman pour moi, qui m'a appris la langue. J'ai pu satisfaire parce que j'ai été toujours parmi les meilleurs à l'école primaire. Mais il y avait ce souci de Zaïrois à l'époque, après l'école primaire. Et puis mon père aussi voulait qu'on maîtrise un peu la langue locale de là. Parce qu'il se disait, vous vivez dans un pays, vous devez connaître la langue du pays. C'était la raison de nous envoyer d'abord faire notre école de base dans le programme national. Et après, à l'école secondaire, comme je vous ai dit, j'étais toujours un passionné de lecture et de l'information, ce qui était bizarre. Tout petit, je ne regardais pas la télé. Quand il y avait l'information, c'est là où j'allais regarder la télé. Et tout le monde s'est posé la question, mais cet enfant, c'est quoi? Il y a les dessins animés, il y a des films,
pas.
Ça ne l'intéresse pas. Maintenant, quand on commence le journal, tout le monde sort.
Et ça, c'est le moment-là que vous venez.
J'étais toujours seul devant la télé. Et quand le journal se termine, ah, je suis parti. J'avais ma petite radio que mon papa m'avait offerte. Et là, je suivais que les émissions. Quand papa me demandait un cadeau, je lui demandais d'acheter des livres pour moi.
Ça vous a prédisposé à ce que vous êtes devenu aujourd'hui?
Oui, oui, ça m'a prédisposé à ce que je suis devenu aujourd'hui. Parce que je me rappelle un jour, et puis quand je m'habillais, je fermais toujours le bouton, jusque le dernier bouton. Et puis une maman me disait, mais cet enfant, il sera enseignant un jour. Ou bien il sera directeur un jour, parce que je m'habillais un peu différemment. Bah, je sais pas l'expliquer, mais j'ai détesté l'enseignement.
Ah bon?
Parce que c'était pas bien payé. Je me rappelle quand j'étais à l'école secondaire, quand on nous demandait quel métier tu vas faire, moi j'avais le rêve de devenir médecin. Et quand la madame m'avait demandé, toi tu peux être enseignant, j'ai dit non, jamais. Mais bon, je crois que le destin a fait ce qui
vous a rattrapé.
M'a rattrapé. Je suis un passionné de l'enseignement. C'est pourquoi vous voyez dans mon CV, il y a les histoires de renforcement des capacités. Donc, je me parlais aux plus petits dans leur langage pour faire avancer les choses.
Alors, quelques souvenirs d'amis d'enfance, quelques anecdotes d'enfance?
Un bon souvenir, c'est récemment, avant juste que je jeûne à Kinshasa, il y a les amis qui m'appellent par hasard. Hein. Ils me posent la question, ils disent, mais tu es en Belgique, tu es où? Je dis, non, je suis au Burundi. Il dit, ah, tu es au Burundi? On va voir madame qui nous a enseigné à l'école primaire.
Waouh.
J'avais d'autres programmes, j'ai dit, j'abandonne tout, je peux pas rater ça. Et puis, il a appelé d'autres amis. C'était un truc organisé à la hâte, comme ça. Et puis, on est parti voir madame. Elle ne savait pas qui va venir. Et quand on est arrivé là-bas, bon, on a des amis qui sont déjà grands-parents, qui ont fait vite les enfants. Mais en fait, on est redevenus des enfants. Parce que on devait parler de notre vie d'école primaire. Et l'enseignante qui nous a enseigné a pris sa retraite.
Wow.
Elle a 70 ans actuellement. Donc, elle avait les larmes aux yeux. Elle se disait, mais quelle surprise. Et puis, on devrait se présenter. En fait, on me pose la question, mais comment s'appelle madame? En fait, nous tous, on ne connaît pas son prénom, son vrai prénom.
Parce qu'on ne l'appelait que madame.
Non, non. On l'appelait qu'un surnom qu'on lui avait donné.
Qui était très courant entre vous, les élèves.
Non, qui était très courant, jusque dans les quartiers.
Okay.
On l'appelait madame Urabose. C'est-à-dire, Urabose, c'est-à-dire, madame, vous êtes pourrie.
Pourquoi elle vous pourrissait la vie?
Non, non. En fait, quand les enfants dérangeaient, il disait toujours, mais vous les enfants, vous êtes pourris. Et nous, on a transformé, on l'a appelé madame pourrie.
Voilà, comme pour oui. lui redonner la oui, monnaie de sa pièce.
En fait, on a trop rigolé parce qu'il y avait ses fils, ses belles-filles. Et quand on me demande, madame s'appelle comment, je dis, madame, vous êtes pourrie. elle a rigolé parce que, en fait, ça l'a ramené. Il y a 30 ans, vous imaginez?
Vraiment.
La vie, il y a 30 ans, on a commencé chacun
à raconter ses souvenirs,
ceci, ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours marqué. Et la deuxième chose qui m'a beaucoup marqué et qui m'a suivi jusqu'à présent, quand on était petit, on était enfant à l'école primaire, il y avait un programme que j'aime bien, Jardin à milieu scolaire. Et la première fois que j'ai voulu venir dans la semaine des sciences, c'était en 2021 que j'étais invité. Je devais parler des jardins élevage en milieu scolaire. En fait, ce souvenir d'enfance, de dire en fait, on faisait les jardins quand on était petit à l'école. On récoltait le maïs, on récoltait le tomate, on amenait ça à la maison. Et maintenant, directeur de la recherche, professeur que je suis, et moi je me dis, le problème qu'on a parlé avant de sécurité alimentaire, de nutrition, de pauvreté, c'est un problème dans la tête parce que on peut produire n'importe où. C'est-à-dire, on peut, en intégrant ce programme à l'école, on peut changer la vie des enfants, on peut changer la manière de voir des choses des enfants, on peut aider les enfants à être des passionnés dès le petit âge de l'agriculture. On peut intégrer les notions d'agriculture dans les cours des mathématiques, dans les cours de l'élevage. En fait, ce souvenir-là d'enfance, actuellement, je suis en train de réfléchir comment ce que j'ai vécu en étant enfant, je peux le transposer à une recherche pour changer aussi la vie des enfants, la vie des familles.
Vous aviez déjà une petite radio que vous avez donnée à votre père. Quelles étaient les chansons de l'époque que vous aimiez?
Ah, les chansons de l'époque que moi j'aimais beaucoup. Ah, c'est bizarre, j'étais petit. J'aimais les rumba. Je comprends pas bien le lingala, mais j'aimais beaucoup les luambo, les madilou, donc tout ce qui était en relation
Rogero.
En fait, ça me berçait. En fait, moi, j'ai dormi avec la radio qui chante.
En boucle.
En boucle. Mais aussi, j'aimais le journal. C'est-à-dire, RFI. Je pouvais suivre ça tout le temps. Et ça m'aidait. Si je suis en train d'étudier, de lire, j'ai la radio à côté, je suis dans mon monde à moi.
Vraiment.
Ouais.
Et aujourd'hui, c'est quelle chanson qui vous berce?
Aujourd'hui, et c'est bizarre, je suis trop bercé maintenant par la musique religieuse. Le gospel, j'aime bien aller à Moloto. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié et vraiment j'ai toutes ses chansons sur mon téléphone, je le télécharge. Et je crois que je ne l'ai jamais connu. Mais c'est parmi les personnes qui m'ont fait rêver pour dire, quel que soit l'état de mon pays, je peux y retourner. Parce qu'il y a toujours de l'espoir. Cette chanson m'a...
C'est encore possible.
C'est encore possible. Ça m'aide dans ma vie de tous les jours. Quel que soit ce que je croise, quelles que soient les difficultés, je dis toujours aux gens, tout est possible.
Alain Moloto, fondateur du groupe Gaël.
Gaël, ouais.
Il est digne d'honneur, notre roi. Il rend toutes choses possibles. Un Dieu merveilleux qui se sert de nos insuffisances et de nos imperfections humaines pour nous accorder la grâce de fleurir dans sa gloire et dans sa majesté. Nos vies d'échecs deviennent des vies de témoignage à cause de sa main puissante, oh Dieu. Il relève tous ceux qui sont affaiblis. Il donne encore un espoir nouveau, un élan nouveau à tous ceux qui ont arrêté de croire encore à l'avenir glorieux. Il rassemble les cœurs, il fait tout ce qu'il faut pour que notre joie soit parfaite. Voilà pourquoi il a dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. C'est encore possible, même pour ce pays, de voir toutes choses relevées, car il rebâtit sur l'ancienne ruine. Tout est possible. C'est encore possible. C'est possible de retrouver la joie brisée, d'oublier la honte, les souffrances des droits lésés, vivre le plaisir d'un bonheur tant recherché et jouir des merveilles longtemps rêvées. C'est encore possible. C'est encore possible de tout refaire et de voir venir.
cœur, d'écrire une nouvelle page en couleur d'espoir. C'est possible de renaître, c'est encore possible d'avoir au-delà de tout ce qu'on a perdu, de bien faire la joie de ceux qu'on a aimés. De vivre son bonheur, c'est encore possible de relever le défi, d'aller jusqu'au bout, car son amour est infini. Jésus-Christ est là, agissant par son
construire ce beau pays.
Soit le professeur Bosco Bachangwa Mposi, il est bio-ingénieur en production végétale intégrée, horticulture, système agraire, agroforesterie, spécialiste en agro-socio-économie, développement durable, sécurité alimentaire et moyens d'existence, directeur de la recherche et des programmes de développement à l'Université Espoir d'Afrique au Burundi. Voilà, professeur, notre entretien est en train de toucher à sa fin. Congolais, né au Congo,
grandi
au Burundi, travaillant au Burundi, travaillant au Congo. Vous êtes l'exemple d'une bonne réussite de l'intégration sous-régionale. Est-ce que vous pensez que si au niveau de la sous-région, la RDC, le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, tous les pays frontaliers, si on avait un peu cet esprit que vous avez d'intégration sous-régionale, la région n'irait-elle pas mieux?
Je crois que la région ira mieux à travers nous, les scientifiques, parce que, comme je vous ai dit, né au Congo, arrivé au Burundi à l'âge de 2 mois, j'ai fait de mes recherches au Rwanda. Comme tu dis, je suis un produit de l'intégration régionale parce que je parle un peu ma langue maternelle. Mes enfants qui sont nés en Europe, ils n'ont pas des prénoms en français ou quoi, ils ont le prénom dans leur langue locale, les Machi, il y a Ganze, Achouza, Ansima, avec des significations de chez nous. Mais je parle aussi le Kirundi, Et je parle aussi un peu le Kinyarwanda. Donc, je me dis que nous devons dépasser les frontières. En fait, c'est des questions politiques et d'égoïsme qui nous divisent. Parce que quand vous êtes chez moi à Bukavu le matin, vous allez voir des milliers de Rwandais qui traversent pour faire leurs activités à Bukavu et qui rentrent pour dormir chez eux au Rwanda.
Et des milliers de Congolais
et des milliers
qui quittent
de
la RDC pour le Rwanda.
Qui quittent la RDC pour le Rwanda et qui reviennent. Au Burundi, Bujumbura, Bukavu, c'est 3 heures actuellement de route. C'est-à-dire, il y a des dizaines de véhicules qui quittent Bujumbura pour aller à Bukavu et qui quittent Bukavu pour aller à Bujumbura. D'ailleurs, dans ma vision, j'interpelle ici la professeure Aïssa Malou de réfléchir sur la semaine des sciences et technologies comme outil d'intégration régionale où on va créer un espace de réflexion des chercheurs, des Congolais, Burundais, Rwandais, une synergie où on va créer une synergie entre élèves et étudiants congolais de ces régions-là. Parce que, en fait, c'est cette cohabitation pacifique qui va amener les politiciens de comprendre que nous devons changer nos politiques, nous devons changer la vision des choses, parce que qu'on les veuille ou pas, on ne déplacera jamais les frontières, on est appelé à cohabiter ensemble, on est appelé à échanger. Comme je vous l'ai dit, on est en conflit, mais ce sont les politiques qui sont en conflit.
Et les populations se côtoient chaque jour.
Les populations se côtoient chaque jour. Il y a des échanges économiques chaque jour. Donc c'est impossible de freiner cette cohabitation. Même avec l'Ouganda, avec le Kenya, tous. Actuellement, vous arrivez à Bukavu, c'est un carrefour de tout le monde. Mais maintenant, je peux vous dire qu'il y a des gens qui quittent. Moi, ce qui m'a étonné, j'étais à l'intérieur au Burundi, à l'intérieur du pays. Une maman m'approche, dit « Bonjour monsieur, j'ai entendu que tu viens de Bukavu. » J'ai dit « Oui, qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Il dit « Mon mari travaille là-bas comme homme de ménage. » J'ai dit « Waouh !» Donc à 50 kilomètres de la capitale, pour vous dire que la plupart des femmes de ménage ou des hommes de ménage, des maçons, même des techniciens dans l'élevage à Bukavu, viennent du Burundi.
Pour terminer, professeur, ouais, un mot aux gouvernants qui vous écoutent, aux jeunes qui vous suivent et à tous ces millions de Congolais qui vous suivent en RDC, en Afrique et à travers le monde.
Oui, je crois que mon dernier mot va porter sur l'exposé que j'ai fait durant la semaine de la science. Je parlais de l'intelligence situationnelle et l'intelligence collective pour développer nos pays. Quand je parle de l'intelligence situationnelle, pour parler terre à terre, c'est comment je me comporte dans une situation donnée. Comment je trouve une solution à un problème donné. C'est-à-dire, à chaque problème, il y a une situation adaptée. Et quand je parle de l'intelligence collective, c'est ton intelligence, c'est mon intelligence, c'est une synergie d'intelligence. En mettant nos intelligences ensemble, on va soulever les montagnes. C'est-à-dire que pour le gouvernant, je veux que le gouvernant ait cette intelligence collective en s'approchant au gouverné, à savoir quel est le besoin réel de gens. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une déconnexion. On décide de certaines politiques de développement, parfois ça ne tient pas compte de réalité de la RDC ou de la réalité de l'Afrique. La RDC n'est pas homogène, la RDC est hétérogène. C'est là où l'intelligence situationnelle entre en jeu. Si on doit construire les écoles, par exemple, à Kinshasa, si on doit construire 10 salles de classe à Kinshasa, à Bukavu, Kindu, le budget ne sera pas le même parce que les situations, l'environnement n'est pas le même. Mais en nous mettant ensemble avec cette intelligence collective, c'est là où nous allons développer la RDC, c'est là où nous allons développer l'Afrique.
Et aux jeunes professeurs?
Aux jeunes, je dis la même chose, de ne pas travailler en solo. On dit que le Muntu n'est fort qu'avec son frère. Aux jeunes, je peux mettre l'accent sur l'entrepreneuriat et le développement local et d'avoir la vision. Comme je vous ai dit, moi, je quitte l'Europe pour venir ici et je demande à nos jeunes, c'est vrai, on peut rêver l'Europe, mais avec quelle vision? Nous avons la richesse autour de nous. Je veux vous donner l'exemple que j'ai donné au Congo central. Tu as déjà mangé l'avocat?
Oui.
Que faites-vous des graines? J'ai déjà un journaliste, excusez. Que faites-vous chez vous des graines d'avocatier?
Généralement, on jette.
Vous les jetez. Pourquoi?
On a l'impression que ça ne sert à rien.
On a l'impression que ça ne sert à rien. C'est-à-dire que votre vision sur les graines d'avocatier, c'est de la poubelle, c'est un déchet. C'est-à-dire, si tu vois la graine d'avocatier comme un déchet, elle restera un déchet pour toi. Mais si tu es de quelle région? De quelle province?
Du Lualaba.
Du Lualaba. Tu peux compter les graines que tu as déjà jetées?
Des milliers.
Des milliers. Imaginez-vous, si tu faisais la collection d'avocats que tu apprécies, tu mets à côté, et que, après 2 mois ou 3 mois, tu envoies ça à Lualaba pour mettre dans la terre, tu auras combien d'arbres d'avocatiers? C'est-à-dire que parfois on n'a pas besoin de grands financements pour commencer quelque chose. En traversant Kinshasa, Congo central, j'ai vu le vide. Et j'ai dit aux gens, si nous voyons les graines d'avocatiers comme semences qui peuvent nous donner de l'argent, le Congo central sera le premier fournisseur d'avocatiers de Kinshasa, voire peut-être de l'Afrique. Voilà, c'est comme ça que c'est par là que je peux terminer notre entretien.
Professeur Bosco Bashangwa Mposi, merci d'être passé à Grand Témoin.
Merci, monsieur le journaliste, de m'avoir invité.
Grand Témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Présentation et coordination, Alain Hirong-Mouchige. Supervision, Jean-Marc Matouaki. À la mise en onde, Pierre Diassinois. Vous pouvez réécouter, voire télécharger cette émission ou encore plusieurs autres numéros de Grand Témoin en allant sur www.radiocapi.net. Bonne suite et programme sur la fréquence de la paix. Au revoir.